Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Ensemble sur Calade en ce vendredi 3 juillet 2020. C'est la fin de la semaine, c'est aussi la fin de la saison pour Ensemble sur Calade. L'émission s'offre des grandes vacances cet été pour pouvoir mieux revenir en septembre. Alors entre midi et deux, eh bien cet été, on vous proposera de redécouvrir les meilleurs moments qu'on a eu dans cette émission. Les interviews, les chroniques, toutes sortes de belles choses à réécouter tout l'été. Côté météo, aujourd'hui, on a des températures très agréables, entre 21 degrés du côté de Beaujeu, 25 à Neuville. Et les quelques nuages qui restent dans le ciel devraient se dégager cette nuit pour nous permettre de profiter d'un très beau ciel bleu ce week-end. Avec une hausse des températures, on s'attend à les maximales à 29 degrés samedi et dimanche. Voilà pour la météo. Au programme de notre émission du jour, comme chaque vendredi, on retrouve bon nombre de chroniqueurs. Charline Simillon, diététicienne et nutritionniste avec qui on parle nutrition. Bien sûr, Pif Paf et ses chroniques qui décryptent l'actualité, Queenie et ses coups de cœur blues, Georges Boton avec Mai la 11e et Pitch, notre disquaire qui nous conseille un nouvel album chaque semaine. Mais avant toute chose, eh bien, on va recevoir un musicien, c'est Nicolas Bonnet, originaire de Grenoble. Il est sur le point de sortir un nouvel album accompagné de Stéphane Borg. On va découvrir son parcours de musicien, l'univers musical qu'ils ont créé ensemble. Mais d'abord, je vous propose qu'on écoute l'un de ses morceaux pour un petit peu mieux le connaître. Voici l'un des titres les plus rock de l'album, l'un des plus sombres aussi. Ça s'appelle Lady Macbeth de Nicolas Bonnet. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être à notre écoute.
De cette nuit, hey, elle est une Macbeth sans un mot vient entendre les oracles qui prédisent au loin. Hey, elle est une Macbeth, on n'échappe pas au mal que l'on réveille du tréfonds de soi. Oh, elle est une Macbeth, oh, ma lady, partant de sang versé, sombre dans la folie. Corruption de grandeur, d'une gloire immortelle, dévassée de leur nom, notre nom soit lumière. Condamnés à l'horreur et traqués par le ciel, nous ne sommes plus qu'ombre en flamme de l'enfer. Hey, hey, Lady Macbeth, lave tes mains, tu peux fuir le château, ça n'y changera rien. Hey, hey, Lady Macbeth, lequel de moi as-tu fait revenir et devenir roi? Oh, ma Lady Macbeth, oh, ma Lady, ensemble nous verserons vos banquets des maudits. Corruption de grandeur, d'une gloire immortelle, évincée de leur nom, notre nom soit lumière. Condamnés à l'horreur et traqués par le ciel, nous ne sommes plus qu'ombre en flamme de l'enfer. Crucifiez votre ego, misérable Seigneur, t'apporte la fin.
idiot, plein de bruit de fureur et qu'il te suffit.
Lady Macbeth sur Calade de Nicolas Bonnet. Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Calade.
Et il est avec nous tout de suite, Nicolas Bonnet, pour nous parler de son parcours musical, de sa musique et de l'album qui approche, qui devrait pas tarder à sortir. Bonjour.
Bonjour.
Alors le morceau qu'on vient d'entendre, Lady Macbeth, je le présentais comme l'un des plus rock de l'album, des plus sombres peut-être aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce morceau? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire?
Ouais, alors c'est un morceau qui a quelques années qu'on a décidé d'inclure donc sur l'album là qu'on est en train de finir. Ce qui m'a inspiré surtout, c'était le côté intéressant de Macbeth, donc écrit par Shakespeare, où c'était le côté où on sent que le mec commence à basculer un petit peu dans la folie en fait, tout concrètement quoi.
On la sent bien cette folie dans ce morceau. Alors, on pourrait commencer déjà par parler un peu de votre parcours musical. Comment est-ce que vous avez commencé la musique personnellement ?
Alors personnellement, moi j'ai commencé la musique il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Mmh. À peu près au même moment où j'ai rencontré mon binôme donc avec qui on enregistre, donc Stéphane Borg. J'ai surtout commencé par les textes à la base. C'est-à-dire qu'à la base surtout j'écrivais beaucoup depuis tout petit, et ça a basculé vers la musique. Je me suis dit pourquoi pas mettre de la musique un peu sur la musique sur les mots.
Et donc depuis tout petit vous aviez l'habitude d'écrire des textes, c'est quelque chose dont vous aviez besoin, c'était un loisir, un jeu peut-être au début, comment ça?
Après je vous dis ça fait longtemps, je me souviens pas trop des débuts exactement, à part d'avoir des vieux souvenirs où j'écrivais des petits poèmes. Mais après oui, c'était plus une façon de lâcher un petit peu du lest. Et puis après c'est devenu effectivement un jeu qui prend tout mon temps.
D'accord. Et donc vous nous parliez de Stéphane Borg, c'est avec lui que vous avez commencé la musique déjà très jeune?
Ouais, alors j'avais commencé un petit peu avant, et moi je l'ai rencontré il y a une personne qui s'appelle Michel Galino, qui est du côté de Domaine, donc en région grenobloise, et qui tout simplement nous a mis en lien, parce que moi je cherchais du coup à me progresser un petit peu à la guitare à mes débuts. Elle m'a présenté donc Stéphane, et au final en quelques cours on a commencé à arranger mes chansons, et voilà, les choses sont parties de là.
Alors ça fait déjà quelques années que vous mettez en ligne sur internet des musiques, des morceaux. Comment est-ce que vous avez commencé à enregistrer? Il faut pour arrêter un morceau, dire voilà, ça je vais le publier, je vais le partager au monde. Comment est-ce qu'on se dit là c'est bon, je vais aller me mettre en studio, enregistrer? Comment ça a commencé ça?
Alors déjà, ça fait pas tant d'années que ça au final que je commence à mettre des chansons en ligne. Parce que ça doit faire 3 ans. J'avais enregistré une première maquette avec une autre personne qui s'appelle Léo Martin. Donc voilà. Et en fait, avec Stéphane Borg, nous on continuait à travailler aussi ensemble de notre côté. Et disons que le projet avec Stéphane nous ressemblait, je pense, autant à lui qu'à moi. On y trouvait chacun son compte, vu que moi je suis un peu plus sur la partie auteur, Stéphane un peu plus sur la partie musique, et le projet naît comme ça. Après, quand est-ce qu'il faut arrêter une chanson, ça c'est quand est-ce qu'on sait qu'on va la publier ou non, c'est compliqué de le dire, mais déjà quand une chanson est finie, on sent plus ou moins quoi, les choses s'imbriquent ensemble ou ne s'imbriquent pas d'ailleurs parfois, parce que au final pour finir d'écrire une chanson, il y en a quand même beaucoup de mots et de pages qui passent à la trappe.
Ouais.
Mais de temps en temps, ça donne quelque chose.
Et du coup, le travail d'écriture, c'est un petit peu votre domaine dans le duo que vous formez. Comment est-ce que vous allez chercher les textes? C'est dans votre vie, dans votre quotidien, ou c'est peut-être d'autres œuvres qui vous inspirent?
Non, j'allais dire un peu de partout, ça dépend. C'est un peu du quotidien de la vie, dans les banalités comme dans les choses plus grandes, quoi. Il n'y a pas forcément de règles là-dessus. Dès que je finis une chanson, j'ai toujours l'impression de me dire que je ne serai jamais capable d'en réécrire une autre, quoi. Donc il n'y a jamais de. Moi j'ai mes brouillons. Je mets des petites notes par-ci, par-là, et de temps en temps, d'un brouillon, on passe à l'autre. Des fois, on se rend compte qu'il y en a qui vont ensemble. Des fois, on se rend compte que ça ne va pas ensemble. La plupart du temps, ça ne va pas ensemble, d'ailleurs. Mmh. Des fois, ça fait de certains mots mis ensemble, ça fait des phrases. Et des fois, de phrases, ça fait des couplets, ça fait des refrains. Pas forcément de règles là-dedans. C'est le processus, c'est compliqué à exprimer parce qu'il n'y en a pas vraiment, en fait.
Ouais, ça vient ou ça vient pas, mais il n'y a pas de recette secrète pour l'écriture, je crois.
Malheureusement, non. J'aimerais bien la voir si vous l'avez.
J'ai l'impression, dans l'une des thématiques qui revient souvent dans les morceaux que j'ai pu entendre, c'est les relations humaines, quand même, et puis sentimentales. Surtout, c'est un sujet qui vous inspire, j'ai l'impression, en particulier.
Ben, c'est un sujet qui m'inspire dans le sens où, comment dire, c'est le sujet qui est, c'est un sujet récurrent dans l'histoire de l'humanité, les relations humaines de toute façon. Hein, donc, c'est, pour moi en tout cas, c'est la mise devant les, de comment dire, c'est la chose qui me saute le plus aux yeux, le plus au cœur, quoi. C'est vrai que moi j'ai du mal à. Par exemple, je sais qu'il y a des mecs qui arrivent à faire des chansons comme Renaud, par exemple, qui vont être un peu plus politiques, un peu plus engagés. Pour l'instant, moi, je suis pas encore là-dessus. Peut-être que ça viendra un jour, mais c'est vrai que ça parle beaucoup d'amour, d'amitié, les sujets communs, quoi. Ce qu'il faut après, comme on le disait avec Stéphane lors de l'une de nos dernières interviews, c'est de le dire avec ses moins soi.
Ouais. Et mais on trouve quand même vous venez de citer Renaud, on trouve de la poésie dans vos textes, on trouve des airs d'autres auteurs, de poètes. J'imagine que vous avez une passion pour la littérature, la poésie, ou même la chanson française en général.
Bien sûr, ouais. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait. Ben, la chanson française. Parce que moi, je pars un peu plus de ça à la base. Stéphane est plus orienté beaucoup de jazz, musique anglaise, américaine. Moi aussi, de plus en plus. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, je pars surtout voilà de la musique française, surtout des mots, quoi. Et c'est vrai que des bouquins, je peux en citer quelques-uns. Cent ans de solitude de Marquez, Solitane, Nabokov, beaucoup Maupassant aussi, Camus. Kundera aussi, là je suis en train de lui mettre un petit peu en ce moment. Et puis pour la musique française, Jacques Brel évidemment. Ouais. Jacques Brel, Céphène, Higelin beaucoup.
Higelin, c'est j'ai passé le morceau Lady Macbeth, c'est exactement à lui que ça m'a fait penser, à Jacques Higelin directement.
Bah écoutez, je prends le compliment alors.
Et donc, vous travaillez pour créer votre musique, vous travaillez à deux. Quand on a un texte, ensuite il faut le mettre en musique. Comment ça se passe, fusion des deux?
Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de formule là-dedans. À la base, nous, quand on a commencé avec Stéphane, effectivement, on va dire que c'était vraiment un an et demi qu'on s'est lancé sur ce projet commun. À la toute base, c'est soit il y a la musique, soit il y a le texte, mais il n'y a pas forcément plus l'un que l'autre. Quand on a commencé, nous, vraiment, on commençait donc à arranger mes chansons, donc. La partie musique, c'est moi qui mettais la base avec le texte. Et c'est vrai que Stéphane, là où il intervient, c'est que la remodélisation de tout ça, quoi. Comme j'aime bien dire, moi, c'est vrai que j'essaie de mettre un peu le squelette, mais Stéphane s'occupe de mettre un peu après la peau,
tout
ce qu'il faut, les organes, tout ce qu'il faut pour qu'une personne vive, quoi. Une chanson, c'est un peu la même chose, quoi.
D'accord. Et l'enregistrement, alors, ça s'est passé comment? Cet album, les morceaux sont là. Comment vous êtes allé en studio? Comment ça s'est passé?
Alors, Nous, déjà, on est encore en train de finaliser. On a présenté une partie de notre travail déjà. On va en présenter une deuxième partie au mois de septembre, des labels, des boîtes de prod, etc., avec qui on est en contact. On retourne encore en studio pour vous dire cet après-midi. On y sera aussi aussi ce week-end. On continue à produire. On continue à produire. Là, on doit être une quinzaine de morceaux à peu près. On continue à produire, je veux dire constamment. C'est quelque chose dans lequel faut pas. C'est une mouvance qu'il faut pas arrêter, quoi. C'est une mouvance qu'il faut pas arrêter. Il faut pas arrêter. Mais le studio, dès qu'on a du temps libre, on y va, quoi.
Retourner au boulot dans le studio. Et est-ce que travailler à deux, par exemple pendant le confinement, ça, j'imagine, était plus difficile, plus compliqué de continuer à créer?
Non, pas forcément, parce que les chansons sont déjà là à la base. Donc, comme je disais, Stéphane s'occupe aussi beaucoup de tout ce qui est des arrangements, de recomposer aussi certains morceaux pour leur donner d'autres directions. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce projet est véritablement à deux aujourd'hui. Pas de souci pour bosser à distance, pour enregistrer, effectivement. Là, il faut qu'on soit ensemble. Mais tout ce qui est dans poser les pistes de guitare, les basses, tous les instruments qu'il faut. Ça, je veux dire, Stéphane, lui, le fait de son côté. On s'appelle, on se consulte. De toute façon, c'est forcément 3-4 fois par jour au téléphone. Et pendant le confinement, au final, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi avancer comme ça, même si, bien entendu, ça ne change pas de comment dire, c'est comme une relation à distance. Si à un moment donné, une relation à distance, ça va bien à un certain moment.
Ça a ses limites, ouais. Hein,
voilà. Ça a ses limites à un moment donné. Mais disons que ça n'empêche pas le sentiment, ou nous, dans notre cas, le travail qu'on peut y apporter. Mais c'est vrai qu'après, il faut pouvoir poser les choses et donc aller en studio. Et c'est toujours mieux d'échanger quand on se voit physiquement que par téléphone, c'est sûr.
Et le travail de musicien, il y a créer la musique, mais pas que. Maintenant, quand on est musicien, il faut aussi trouver des scènes, trouver des gens pour nous produire, faire sa propre promotion peut-être. Tout ça, c'est aussi, j'imagine, très prenant pour vous.
Oui, c'est très prenant. Ça l'a été, ça l'est de... je vais dire un peu de moins en moins maintenant, parce que maintenant on commence à avoir un peu des contacts, le projet commence à prendre. Mais au début, effectivement, ouais, bien sûr, c'est énormément de temps, parce que rien que sur une partie marketing, soit Stéphane ou moi, c'est pas notre métier, quoi. Et aujourd'hui, on voit bien comme en politique d'ailleurs, ce qui passe, même si les idées peuvent être, pas top, si c'est bon marketing. Bon.
Et ben on arrive à les vendre quand même, ouais. C'est vrai. Et alors, votre album là pour le sortir, il faut des labels, c'est ça, faut être entouré, c'est.
Alors pour l'instant, c'est une. Nous on dit comme c'est une maquette parce qu'on a enregistré de notre côté. Stéphane fait un énorme travail au niveau de tout ce qui est la gestion du son. Quand je parle gestion du son. C'est enregistrement, c'est traitement de son, mixage, mastering, etc. Donc nous, on a fait cette maquette dans le but justement de pouvoir aller derrière en studio, ce qui normalement là devrait être le cas. Mais pour l'instant, c'est une maquette, on va dire, très très poussée, quoi.
Très bien, donc l'album est dans les tiroirs, on attend sa sortie avec impatience. On va se quitter avec un morceau, Nicolas Bonnet, on va écouter le titre Éperdument. De quoi il parle, ce morceau?
Ce morceau, il parle de des petits ratés de la vie amoureux, de un peu de regret, de nostalgie, un petit peu de tout ça, quoi. C'est un morceau qui a quelques années maintenant, que j'avais écrit à Place d'Italie. On était à la limite du coucher de soleil et c'était un peu mais c'est ça qui est intéressant aussi dans l'écriture. Il faut écrire par besoin, il faut que les choses s'imposent, quoi. Et c'est un peu le sursaut du cœur, on va dire.
Très bien, c'est ce qui s'est passé avec ce morceau. Et ben, on va le découvrir tout de suite. Merci beaucoup, Nicolas Bonnet, à nous avoir parlé de ce projet musical.
Merci
et puis de votre duo avec Stéphane Borg. Très bonne journée.
Merci.
Très bonne journée, au revoir.
Également, merci.
Le jour et la nuit se romancent, le temps s'incline en silence, rien ne bouge, tu restes là, éperdument, je pense à toi. Notre amour que je rêvais si mal, comme un bûcher brûlant jusqu'aux étoiles, volant vers la lumière, papillon de nuit, te souviens-tu l'enfer que l'on s'était promis? Dessinant des éclairs que tu n'entendais pas, tu t'as comme t'étais belle et comme j'étais à toi, insolente et rebelle, t'embrassant sous mes toits. Tu me savais si bien, effeuillant des pensées, que pour savoir si je viendrais, la toute aux portes l'a jetée. Toi, tu allais te noyer et tu m'as laissé prisonnier, enchaîné devant une fenêtre, en train toujours et à jamais. Toi, tu m'as laissé. Le temps s'incline en silence, plus rien ne bouge, tu restes là, éperdument, je pense à toi, je pense à toi.
Nicolas Bonnet sur Calade avec le titre Éperdument.
Ensemble sur Calade.
Allez, dans quelques instants, on va retrouver Charline Simian, notre diététicienne. Et quand on parle alimentation, on conseille souvent les aliments bio, mais on oublie trop souvent, les chanteurs bio, et c'est ce qu'on écoute tout de suite avec Saul.
Toute l'équipe de Radio Calade vous souhaite un bel été. Bonnes vacances avec Radio Calade.
Radio Calade, 100.9. Wow!
De mes habits, de mon joli pull canari, sur toutes mes bouteilles de vin rouge, on a collé des étiquettes sur tout ce qui bouge. Les films, les bouquins, les chansons ne font pas figure d'exception. Du coup, j'ai trouvé mon filon sur la planète. Je crois que je suis premier du nom. Je suis le chanteur bio, 100% naturel, bioma des graines de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Soul, y'a qu'à voir. Pousse toi sur ma branche, renifle un pétale. Boum, 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 tourne le bouton dans la radio. Boum, 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 que du mauvais son dans ton auto. On a combattu la malbouffe, mais la musique de fast-food. Faut que justice élue par la honte. Y'a pas de doute, il faudrait un super-héros. Une sorte de Nicolas Hulot. Avec trois lettres sur son chanteur bien, 100% naturel, biomatégrine de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bien, 100% végétal. Mon nom à moi c'est sol, comme l'arbre. Les pieds dans la boue, mais en éventail. Comme les chauffeurs et les petits beurs, maintenant y'a les chanteurs. Sur la pochette de mon album, on a collé un gros sticker. Je suis le chanteur bio.
Soul sur Calade, le chanteur bio.
Ensemble sur le Calade.
Et tout de suite, on retrouve Charline Simian, notre diététicienne et nutritionniste. Bonjour Charline.
Bonjour Mathieu.
Alors, aujourd'hui, on va parler, on a beaucoup parlé alimentation ces dernières semaines, on va parler de quelque chose qui va souvent avec, c'est l'activité sportive.
Oui, tout à fait, parce que dans une prise en charge nutritionnelle, bah, il y a effectivement souvent deux pans. Un patient qui va souffrir par exemple d'obésité a probablement un souci alimentaire et souvent aussi la sédentarité va de pair parce que bah, quand on prend du poids, on est moins apte à bouger, on a moins de motivation, peut-être moins de souffle aussi. Et c'est vrai que souvent on est dans une espèce de spirale en fait, je mange parce que pour tout un tas de raisons et puis je bouge moins et puis je bouge moins donc je prends du poids donc j'ai besoin de plus manger pour couvrir mon poids. Donc c'est vrai que cette spirale elle peut être vicieuse ou vertueuse selon dans le sens dans lequel on la prend. Et donc c'est vrai qu'on a parlé un petit peu du versant psychologique hein, ces dernières interventions et là le côté sport est intéressant aussi à aborder parce que finalement le sport tout le monde entend bah tiens je vais aller courir ou je vais aller faire du vélo ou de la natation ou vraiment un sport à proprement parler. Ouais. C'est un peu culturel en France le sport, on le fait en compétition donc il y a beaucoup de gens que ça freine alors qu'on peut tout à fait le faire en loisir, se faire plaisir, pas aller jusqu'à se faire mal. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut aider à la perte de poids. Et souvent dans mes suivis, en fait, c'est ce que je propose. C'est-à-dire, on ne va pas tout mettre en place d'un coup. Mais quand on arrive au bout d'un certain effort alimentaire, eh ben on peut du coup réfléchir un petit peu différemment l'activité physique en disant, bah, tiens, j'ai mené mon action sur le sport, sur l'alimentation pardon, jusqu'à maintenant. Et ben là, je vais plutôt passer sur le versant, je vais bouger un petit peu plus, parce que dans mon assiette, l'effort est déjà bien fait et que je vais pas passer ma vie à enlever des trucs de mon assiette non plus.
Et l'activité physique, on parle du sport aujourd'hui, et effectivement, ça peut rebuter un petit peu au début de se dire, mais je vais quand même pas aller faire des jogging tous les jours, ça va être épuisant. Y a des moyens plus simples de faire du sport, je pense, je sais pas, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, mais essayer de tout simplement d'avoir des activités physiques simples toute la journée, marcher.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'activité physique, souvent on pense sport, et en réalité, le sport pour moi c'est vraiment, soit on aime la compétition, et dans ce cas-là, bon, on fait du sport pour ça, soit c'est de la détente, mais véritablement c'est plus pour moi le complément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés, on a beaucoup de choses qui nous permettent de se sédentariser. On va faire les courses par le drive, par exemple, on va avoir une voiture qui a une fermeture centrale, on n'a plus besoin de chercher les clés dans le sac et tout ça en fait réduit les dépenses d'énergie. Et quand on parle d'activité physique aujourd'hui en nutrition, c'est aussi ça, c'est-à-dire juste bouger différemment, peut-être réfléchir différemment à comment je vais organiser ma journée pour bouger un petit peu plus, hein, vous le disiez Mathieu, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, bah, des fois à attendre l'ascenseur on perd du temps, plutôt que si on était monté même plus doucement avec les escaliers. C'est aussi pareil quand je vais passer faire deux fois le tour de Villefranche pour trouver une place dans la rue Natte, bah, si je me garde dans une rue adjacente, finalement des fois bah, je fais 2 minutes de marche. C'est 2 minutes de gagner en mouvement et puis c'est 15 minutes de pas perdu à tourner en rond pour trouver une place.
Dans les embouteillages, exactement. Donc les bienfaits de l'activité physique, oui, bah, de toute façon, on n'en parlera jamais assez, on le rappellera jamais assez, ces bienfaits-là.
Oui, oui, et puis ça a un vrai bienfait sur le moral, ça a un bienfait parfois sur l'assiette, parce que quand on mange émotionnellement, si on a moins d'émotions parce qu'on s'est un petit peu défoulé, ne serait-ce qu'en marchant, c'est-à-dire même pas aller courir pour se défouler, juste s'aérer la tête, bah parfois ça aide à moins grignoter, par exemple le soir en rentrant à la maison.
Et ça explique peut-être pourquoi il y a eu une recrudescence des joggeurs pendant le confinement. C'est que ça fait du bien tout simplement de sortir et puis de bouger, on en a besoin.
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup, Charline Simian, de nous avoir conseillé pendant toutes ces chroniques sur Calade. Alors, ensemble sur Calade, ça prend des vacances. On vous retrouve en septembre.
Avec plaisir.
Merci beaucoup encore une fois. Très bonne journée.
Bonne fin de journée et bonnes vacances, Mathieu.
Au revoir, bonnes vacances.
Au revoir.
Avant de retrouver Pif Paf, un peu de musique, voici Earth, Wind and Fire sur Calade, Sing a Song. Wind and Fire sur Calade avec un morceau plein d'énergie, ça fait du bien, c'était Sing a Song.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Pif Paf qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour Pif Paf.
Salut Mathieu, ça va bien ?
Ça va bien et toi ?
Oui, je tousse un peu. Bonjour à toi, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, que te raconter aujourd'hui ?
Alors là, j'ai cru comprendre qu'on allait partir un petit peu dans des zones écologiques. Je me suis laissé penser ça.
Oui, alors quand tu parlais de la chanson, tu as dit que c'était un morceau plein d'énergie. Eh ben justement, on va en parler de l'énergie, et entre autres, on va parler de l'énergie nucléaire. Alors, 43 ans au compteur pour Fessenheim. Comme toutes les centrales nucléaires françaises actuellement en activité, Fessenheim a été conçu initialement pour fonctionner 40 ans maximum. Au-delà, les réacteurs entrent dans une phase de vieillissement qui n'a pas été prévue par les ingénieurs et que la filière nucléaire ne maîtrise pas. La doyenne, donc, du parc nucléaire français a bien mérité son départ à la retraite. Elle est située en zone sismique et susceptible d'être inondée, avec des micro-fissures sur la cuve du premier réacteur, des joints et composants obsolètes, un générateur de vapeur non conforme, des arrêts prolongés, plus de 15 incidents sur chaque réacteur. Il était temps d'intervenir. Même rénovée à grands frais, la centrale de Fessenheim n'aurait pas pu atteindre les exigences de sécurité imposé aux réacteurs plus récents comme l'EPR. Sa fermeture était absolument nécessaire pour limiter les risques accidentels pour la France, mais aussi pour l'Allemagne et la Suisse, situées à quelques dizaines de kilomètres à peine, car la radioactivité ne s'arrête pas aux frontières. Cette fermeture n'est que le début d'un long processus. La prochaine étape, c'est le démantèlement ou la déconstruction de la centrale. Et là, on part dans l'inconnu. Fessenheim arrête de produire de l'électricité, mais le site est loin d'être définitivement fermé. Il faut désormais démanteler l'installation nucléaire et évacuer du site la totalité des substances dangereuses ou radioactives. Ces opérations sont prévues pour s'étaler sur une durée de 20 à 30 ans, nous dit-on, ou bien plus longtemps, car EDF traîne les pieds. En 2016, EDF annonçait vouloir reporter le démantèlement des vieux réacteurs nucléaires de la génération précédente de plusieurs décennies, ce qui signifie que le réacteur ne serait toujours pas complètement démantelé d'ici à la fin du XXIe siècle. EDF évoque des problèmes techniques, mais en réalité, le problème est surtout d'ordre financier. Le démantèlement, c'est une opération qui coûte extrêmement cher et qui ne rapporte pas d'argent. Il génère des volumes de déchets radioactifs importants qu'il faut ensuite stocker et gérer quelque part, mais où ? Et pendant des millénaires pour certains types de déchets et qui pèsent sur le bilan de l'entreprise et sur la sécurité de la population. Mais à ce jour, personne dans le monde ne sait comment démanteler une centrale nucléaire et aucun pays, à ce jour, n'y est encore parvenu. Prenons le surgénérateur Superphénix de Malleville dans l'Isère. C'est le 5 mars 1974 que le Premier ministre français Pierre Messmer présente officiellement Superphénix, un gigantesque projet de surgénérateur. En théorie, un réacteur de ce type doit produire plus de matière fissile qu'il n'en consomme. Alléluia. Les surgénérateurs devraient donc régler pour des millions d'années le problème de l'énergie en produisant de l'électricité tout en démultipliant la quantité de matière fissile disponible. Facile sur le papier. Cependant, à supposer que le réacteur fonctionne correctement, ce qui n'a jamais été le cas, la récupération des matières fissiles produites, du plutonium-239, nécessite d'importantes opérations dites de retraitement, plus exactement d'extraction. Malgré l'échec total de Superphénix, la filière française de retraitement fonctionne toujours, on ne sait pas pourquoi. Et elle produit toujours à La Hague, dans la Manche. C'est une usine des plus polluantes du monde. Le site choisi donc pour implanter Superphénix fut Cresmalville, commune de l'Isère, située à une quarantaine de kilomètres de Chambéry et de Lyon, mais aussi à 70 kilomètres de Genève. De fait, les Suisses se sont logiquement sentis tout aussi menacés que les Français. En effet, le danger potentiel de Superphénix est extrême. Le refroidissement du cœur se fait par 5000 tonnes de sodium liquide, un produit, le sodium, qui peut s'enflammer spontanément au contact de l'air libre et exploser au contact de l'eau. Le réacteur contenant par ailleurs plusieurs tonnes de plutonium, tout incendie ou explosion, peut condamner une partie de l'Europe pour des siècles. En toute logique, la mobilisation antinucléaire a été internationale, les Français étant rejoints par les Suisses, les Italiens, des Allemands. Des manifestations massives ont eu lieu. Le 4 juillet 76, plus de 20 000 personnes se rassemblent. 200 manifestants réussissent à pénétrer dans la zone interdite qu'ils occupent jusqu'au 8 juillet, avant d'être délogés manu militari. La violence policière a été forte à l'encontre de ces manifestants. Le 31 juillet 1977, ce sont plus de 50 000 manifestants qui se rassemblent devant Superphénix. Le pouvoir français, fanatique défenseur de son idéologie radioactive, a rassemblé de puissantes forces armées. Le résultat ne se fait pas attendre, plusieurs centaines de blessés et surtout un mort. Vital Michalon, 31 ans, victime du souffle de l'explosion d'une grenade. Le pouvoir parle à propos de sa mort d'une simple crise cardiaque, bien sûr. En vérité, Superphénix ne fonctionnera jamais correctement et connaîtra même une suite ininterrompue d'incidents, dont certains extrêmement inquiétants. Dès 1987, une fuite de sodium entraîne l'arrêt du réacteur pour 20 mois. Les pépins se multiplient. Il faudra attendre 1997 et l'arrivée des Verts dans le gouvernement de Lionel Jospin pour que la décision soit prise de stopper le surgénérateur. La France aura principalement assumé les déboires financiers de l'aventure qui, selon la Cour des comptes, très sous-estimée, aura coûté plus de 10 milliards d'euros. Malgré sa mise à l'arrêt, Superphénix continue à coûter quelques 150 millions d'euros par an, par exemple pour les frais de chauffage du sodium afin de le maintenir sous forme liquide. Ce sodium hautement inflammable Bien entendu, il n'est pas tout seul. Pour le démantèlement, il faut décharger les 650 assemblages du cœur et enfin engager la déconstruction de l'installation. Et ça a commencé le 1er décembre 1999. C'est vieux. Il y a donc bien plus de 20 ans. Qu'est la durée généralement annoncée pour un démantèlement? On n'en est même pas au début. La prévision donc de démantèlement, c'était mi-octobre 2000. Eh ben non, ça continue à tourner. Mais voilà, le démantèlement n'est pas un long fleuve tranquille et la radioactivité est toujours puissamment présente sur le site. Le 30 juin 2020, donc il y a 3 jours, le feu s'est déclaré au cœur des installations de la centrale nucléaire dans un atelier de découpe situé dans le bâtiment réacteur du site de Crémalville. Les équipes de la centrale étaient en train de procéder au retrait des protections thermiques du bouchon tournant en préparation de son démantèlement. L'alarme incendie s'est aussitôt déclenchée et les salariés du site se sont tous regroupés dans le calme à l'extérieur du bâtiment, à l'abri. Les équipes de sécurité de la centrale ont pris en charge les premières interventions. Ensuite, les pompiers sont arrivés. 2 salariés d'une entreprise prestataire ont été incommodés par les fumées et pris en charge immédiatement par l'équipe médicale du site, puis par les pompiers. Une des victimes a été conduite à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu pour des observations complémentaires. Selon la direction, l'événement n'a pas eu de conséquences pour l'environnement. La préfecture de l'Isère a déclaré qu'il s'agissait, bien entendu, d'un incident mineur. Tout comme le mercredi 22 janvier 2020, juste 2 mois avant, où une alarme incendie s'est déclenchée dans la centrale. Les sapeurs-pompiers ont aussitôt déployé un dispositif. Les reconnaissances ont permis d'établir qu'effectivement, un début de feu dans une armoire électrique située au sous-sol d'un bâtiment administratif, voilà, avait eu lieu, sans conséquence, bien sûr, sur les zones sensibles, bien sûr. Ça prend souvent feu, ces usines à l'arrêt, quand même. C'était Arnaud, le chanteur belge, qui a créé ce morceau qui s'appelle Nuclear Summer dont il a légué tous les droits à Greenpeace en Belgique. Alors, on parlait un petit peu des accidents sur le site de Crémalville. Et ça me rappelle, entre autres, le 14 décembre 2018, où un incendie s'est déclaré sur un transformateur à l'extérieur du site et a engendré une coupure électrique générale. Selon EDF, les diesels de secours ont bien démarré, mais ils n'ont pas pu alimenter toutes les installations du site. C'est ballot, non? L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, précise que le démarrage automatique n'a pas fonctionné. Il a fallu procéder à un démarrage manuel avec une manivelle, des sources électriques de secours. La piscine de l'atelier pour évacuation du combustible nucléaire n'a plus été refroidie durant plusieurs heures. Les équipes ont été mobilisées, la préfecture et l'ASN prévenues. Et ce n'est que le lendemain que l'alimentation électrique a été rétablie sur la totalité du site. Et ce n'est que 4 jours plus tard, bien sûr, que la population a été prévenue. Et tout cela me rappelle aussi Le 17 janvier 2018, un mois après l'accident dont on vient de parler, un mois plus tard donc, quand un réservoir contenant un mélange de sodium et de potassium, alliage très réactif au contact de l'air et de l'eau, est découpé dans un atelier sur le site de Crémalville. Sauf que l'exploitant a mal estimé la quantité de solution restant dans le réservoir et l'a manipulé sans les précautions nécessaires. La solution toxique s'est répandue et a commencé à réagir au contact de l'air ambiant, conduisant à la formation de gaz, de chaleur, de superoxyde, une matière très réactive. Alors des mesures d'urgence ont été prises, bien entendu. Alors j'en oublie plein, hein. Des accidents, car dans ce type d'installation, on ne parle pas d'incident, on parle d'accident. Comme par exemple ce dégagement de fumée qui s'est déclaré un jeudi soir le d'août 2013 dans la centrale en cours de démantèlement. Une alarme automatique a relevé dans un local technique abritant du sodium, potentiellement explosif et inflammable, un dégagement de fumée autour d'un tuyau et des résistances qui chauffent. Alors bon. Alors ces démantèlements, on va y arriver. Et ben, le choix de la filière nucléaire a été imposé aux Français sans aucune consultation démocratique. Outre les risques liés à l'activité des installations et ceux liés à la gestion des déchets, un troisième type de problème doit aujourd'hui être pris en compte, donc celui du démantèlement. Eh ben oui, il existe en France 121 installations nucléaires et 58 sont en cours ou vont être en cours de démantèlement. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors la population qui s'est vue imposer le nucléaire sans aucune consultation démocratique et parfois par la violence doit pouvoir à présent s'impliquer dans les discussions visant à réparer les erreurs du passé. Au vu de l'ampleur des chantiers à venir, il est en effet impensable de gérer ces travaux de démantèlement site par site selon des stratégies variables et confidentielles. Il faut que tout le monde soit informé et avoir une vraie politique de démantèlement et de production d'énergie. Et voilà la Convention citoyenne pour le climat, hein, qui vient de rendre sa belle copie, hein, avec plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Eh ben, elle ne s'est pas penchée sur l'énergie nucléaire.
Ah ouais, c'est absent des textes.
C'était pas prévu qu'on en parle. On parle de quelle vitesse on va rouler sur les autoroutes, mais on parle pas de produits, de déchets radioactifs, de centrales qu'on ne sait pas démonter, et on ne parle pas non plus de ces produits qui pendant des millénaires vont être là, enterrés, et qui va les gérer, qui va payer tout ça. Croyez-vous que c'est une société dans l'état financier, économique qu'est EDF, qui arrive plus à s'en sortir, qui va gérer tout ça? Non, bien entendu, qui va reprendre ça à sa charge pour des millénaires, je rappelle, c'est l'État. Et donc, c'est nous. Voilà.
Et l'année dernière, tu nous parlais de cette convention et de qu'est-ce qui va devenir, est-ce qu'elle va être mise en place?
Eh ben voilà, donc il s'est exprimé, Jupiter, en face des membres de cette convention. Alors il a éliminé des trucs, hein, les 100 km sur l'autoroute, il a dit, vous avez vu ce que ça m'a coûté les 80, je vais pas recommencer. Il a éliminé aussi le fait qu'on taxe de 4% tout l'argent que gagnent les grands spéculateurs et voilà, sur l'argent qui touche. Ça c'est éliminé parce que c'est ses potes, hein, faut quand même pas exagérer. Et puis après il a dit ben, le reste on va voir, hein, on va créer des commissions, peut-être qu'il y aura des référendums, on va voir, peut-être qu'il y aura des lois, on va voir, voilà, on va voir.
Il y a déjà des trucs sur la 5G qui ont été totalement ignorés.
Et bien entendu, c'est la 5G qui est complètement inutile. Si tout le monde déjà avait la fibre, ça serait pas mal. La 5G c'est un gouffre, hein, il faut savoir tous ces big data, tous ces gros centres de production de l'information, de traitement, ça a une consommation dans le monde phénoménale qui équivaut à plusieurs centrales nucléaires, justement.
Passer en 5G, ce serait augmenter de 30% notre consommation d'énergie.
Tout à fait, tout voilà. À fait.
C'est l'heure des informations. Merci beaucoup, Pif Paf, pour ces chroniques.
Salut, et puis bon été à toutes, et bon été à tous, et bon été à toi, Mathieu.
Merci. Il est 13h.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Bonjour bonjour ou bien rebonjour et bienvenue dans la seconde partie de cette émission Ensemble sur Calade. Au programme, on va retrouver comme d'habitude Georges Botton avec sa rubrique Mai la 11e autour du jazz traditionnel. On retrouvera également Pitch, notre disquaire qui nous conseille un nouvel album à écouter chaque semaine. Mais tout de suite, eh bien, on va parler blues et pour ça, on retrouve Queenie sur Calade. Bonjour Queenie.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver. En fait, ça sera pour la dernière émission hein, de Ensemble, bien sûr. Je vous parlais d'un géant du blues qui a été à l'origine de pas mal de choses et qui s'appelle Big Bill Bronzy. Alors on le connaît, enfin les gens qui s'intéressent au blues connaissent beaucoup de ses réalisations, enfin, de ses compositions, de ses chansons, puisqu'elles ont été reprises, mais c'était énorme. Donc je vais vous faire un peu sa bio, vous allez voir, c'est assez édifiant. Alors en fait, il s'appelait Lee, et c'est l'un des 17 enfants de Frank Bradley et de Mitty Belcher. Sa date de naissance est incertaine, il paraît qu'il serait né en 1893. Selon son biographe, lui, il pense qu'il est probablement né le 26 juin 1903, sous le nom de Lee Conley Bradley. Le jeune Lee Conley dit plus tard, donc Bill Big Bronzy, joue d'abord du violon et du banjo lors des mariages et des fêtes familiales. Il passe 2 ans sous les drapeaux en 1917-18. Alors c'est là que c'est, je pense quand même qu'il est vraiment né en 1893, sinon il aurait été faire la guerre à 14 ans, c'est un peu juste. Donc cette fameuse guerre qu'il a passée en partie en Europe. C'est en tant que guitariste qu'il a commencé sa carrière à Chicago au milieu des années 20. Il rencontre Papa Charlie Jackson qui lui enseigne la guitare et l'embauche pour l'accompagner. Alors il enregistre son premier 78 tours, et oui à l'époque, hein, en 1927 chez Paramount Records. 2 ans plus tard, il connaît son premier succès avec Bill Bill Blues, qui lui assure une réputation qui effectivement durera jusqu'à sa mort, et même après, hein, puisqu'on en parle encore. Il enregistre donc plus de 300 faces de disques sous son nom, et autant en qualité d'accompagnateur, oh mais zut, d'autres grands bluesmen comme Washboard Sam, Jam Gillum, qui était un harmoniciste d'enfer, Memphis Lim, qu'on connaît bien, entre autres. Il est un chanteur à la voix forte, claire et prenante, au ton déclamatoire, et bon voilà, il est un guitariste complet, véloce et bondissant dans le style innovant, sera abondamment imité. Son immense talent et sa personnalité chaleureuse le rendent populaire auprès de la communauté noire de la ville de Chicago pendant la période de 1930 à 1942 qui représente l'âge d'or du Chicago Blues. Alors, Bill Big Bronzy, accompagné au piano par Albert Ammons, participe au fameux concert comme Spiritual to Swing qui sont organisés en 1938 et 39 par John Ammons au Carnegie Hall, aux côtés de Count Basie, Benny Goodman, Big Joe Turner ou Sonny Terry, que des grandes bêtes. Hein. Il remplace d'ailleurs Robert Johnson, qui avait été d'abord invité, mais qui a eu la mauvaise idée d'être mort entre-temps. Ce fameux Robert Johnson qui fait partie des gens des 27 ans, en fait. Bon, il est mort d'un coup de couteau, apparemment, parce qu'il avait trompé. Enfin, il était sorti avec une femme mariée. C'est pas les choses à faire, mon petit Robert. Après la Seconde Guerre mondiale, son style devient plus policé, urbain et électrifié. Il fut un des premiers bluesmen à venir en Europe et notamment en France en 1951 et participe donc à la propagation du blues. Doté d'un remarquable sens commercial, il abandonne alors sa guitare électrique et sa section rythmique pour revenir à la formule soliste des origines et est présenté comme un laboureur noir du Sud ou comme le dernier des bluesmen vivants, interprétant les vieux chants folkloriques du Sud. Sur le disque Al Green and Crying the Blues, enregistré en France, il chante le célèbre « Baby, please don't go », qui sera repris en fait par multitude, dont en fait Muddy Waters. Et moi, je connais même une version avec Chris Rea. Eh oui, encore lui. Bon, voilà, des airs traditionnels comme John Henry ou le Negro Spiritual, « Nobody Knows ». Figure également des extraits de l'un de ses concerts à la salle Pleyel avec la participation du pianiste Blind John Davis. Alors, il était considéré comme un genre de blues country bien aimé, un maître du folk blues brut et authentique. Mais cette image publique, bien que Bronzy ait travaillé dur pour la maintenir dans ses dernières années, lui fait un peu de tort. Il était beaucoup plus qu'une relique rustique, bien qu'il ait bien joué ce rôle. Bronzy est un excellent guitariste et même sophistiqué, ayant donc commencé dans les années 30, hein, comme je vous le disais, comme joueur de rag et de hokum, mais il était assez polyvalent pour travailler dans des combos de jazz et de R&B. Et son, enfin, qu'on dit R&B, pas la version française, enfin, disons actuelle, hein, et son approche de la guitare a joué un rôle dans la formation précoce du blues de Chicago. Il est aussi un auteur-compositeur astucieux qui a réussi à écrire des morceaux de blues qui ont fait le pont entre les thèmes traditionnels du blues et la structure moderne. Malheureusement atteint d'un cancer de la gorge et des poumons, il meurt en 1958. Alors, Pneumonia Blues, c'est le morceau qu'on va écouter. En fait, ce sont les peuples les plus pauvres aux États-Unis, puisque c'est la population noire, qui ont plus à souffrir des maladies pluridévastatrices. D'ailleurs, en 1927, je ne sais pas si vous avez écouté certaines émissions du confinement, Victoria Speaway a écrit TB Blues, et le blues de la tuberculose. Donc, Big Bill s'en est inspiré, donc alertant sur ce mal qu'est la pneumonie. Donc, il est inhumé dans l'Illinois au Lincoln Cemetery de Worth Township. Donc, on va écouter cette chanson. Vous allez voir, c'est vraiment chouette avec un accompagnement piano. Voilà, enfin, la chanson est chouette, mais le thème est un peu triste. Hein, voilà.
Oui.
Donc, on est parti sur la Pneumonia Blues. Merci Mathieu.
Merci beaucoup Queenie. Dis donc, quand on se retrouvera en septembre, on changera peut-être de thème, là, les maladies.
Oui, ça sera. Ouais, t'inquiète pas. Là, c'était parce qu'on était en plein confinement. Hein.
Ben,
j'ai traité ça. Puis, du coup, c'est vrai que c'est sympa de faire réécouter, puisque c'est pas la même tranche horaire. Mm. Les auditeurs sont pas forcément branchés sur Little Queenie, sur Bibi Queenie Solo and Co. Donc voilà, c'est pas mal. Comme je dis tout le temps, c'est bien de réviser.
Parfait.
Voilà.
Et on rappelle, rendez-vous vendredi à 19h pour Bibi Queenie, donc ce soir, et puis le dimanche à 14h pardon, pour le trio des Bibi Queenie, Bibi Queen.
Bibi Queen, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas.
Je vais y arriver.
Enfin, merci de ton accueil pour ces semaines là qu'on a passées. C'était sympa comme tout.
Et bah,
donc à refaire peut-être. Hein, voilà.
Avec grand plaisir, on se retrouvera en septembre, effectivement. On écoute Big Bill Brunzi, Pneumonia Blues. À bientôt, Queenie.
Salut.
I'm feeling sick and bad. My head is hurting too. Get your doctor so he can tell me just what to do, because I keep on aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away. I have got the pneumonia. I've got it in both my sides. My friends treat me so bad till I just can't keep from crying. For me, I keep aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away. I have news big sad. I news everything my friend said. Take a hot toddy and go to bed, because I keep on aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away. My friends told my wife they had did all they could. They said put him in a hospital before it ruins the neighborhood. I keep on aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away. The doctor said my fever was 103. Nurse said put him in a private room. That's why I ought to be, because he keeps on aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away.
Et son Pneumonia Blues, le choix musical de Queenie que l'on vient d'entendre sur Calade. Place au jazz tout de suite.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Et il est l'heure de notre rubrique quotidienne, mais la 11e. Et pour ça, on retrouve bien évidemment Georges Botton. Bonjour Georges.
Bonjour Mathieu.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien écoute, aujourd'hui, j'ai trouvé une petite phrase de Pierre Dac, une de plus. Je redis une fois de plus que j'adore Pierre Dac. Bon. Et en plus, cette petite pensée, elle s'adapte fort bien à la période électorale qu'on a eue. Elle est pas très gentille d'ailleurs, la phrase. « Chose promise, chose due » est un proverbe sujet à caution, parce qu'il en est trop souvent peu tenu compte dans les milieux officiels. Voilà. Autrement dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ou qui les croient.
C'est ça.
Voilà, ça revient au même. Bon, alors, à part ça, bah, écoute, j'ai programmé pour mes amis auditeurs et amies auditrices auxquels je dis bonjour maintenant, j'ai programmé un super boogie qui s'appelle le boogie du printemps, tout simplement, interprété par Axel Swingenberger. Axel Swingenberger, c'est un Allemand qui joue là en piano solo. C'est un des grands maîtres du boogie-woogie. Alors là, pour ce morceau, je vais faire des commentaires très courts. C'est 5 minutes 30 d'excellent boogie, plein de dynamisme, plein d'un rythme très soutenu avec la main gauche. Et il y a beaucoup d'inventions de la main droite avec des phrases très courtes, répétées 4 ou 5 fois, puis il passe à la suivante. On y entend, alors comme ça s'appelle le printemps, moi j'aime beaucoup ce morceau, il a beaucoup de fraîcheur. On y entend les gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles des arbres, où on devine les fleurs qui ont hâte de pousser, d'éclore pour réjouir les yeux de 12 autres pauvres humains, encore abasourdis par le corona bidule. Alors je me demande où je suis allé trouver cette phrase, quand même elle est belle, hein, franchement.
Très belle phrase, Georges, oui.
Ah oui, oui, j'en ai rêvé toute la nuit de cette sublimitude littéraire et printanière. Bon, allez, je raconte des blagues, ça fait pas mal. Bon, c'est un superbe boogie. Je vais vous dire deux mots de Axel Swingenberger, parce qu'on n'en a pas parlé. Je vous ai déjà mis un morceau interprété par lui, mais je ne vous avais pas parlé de lui. Alors, il est né le 7 mai 1955 à Hambourg, en Allemagne du Nord. Il est spécialisé boogie-woogie et blues. Après, il a fait 11 ans d'éducation de piano classique et il est tombé dans la soupe, comme on dit. Il est tombé amoureux du boogie-woogie à l'âge de 16 ans et en écoutant ses idoles, Albert Ammons, Pete Johnson, Medley Lewis, etc., etc. C'est un pianiste qui est très doué, qui a une parfaite oreille et une mémoire musicale parfaite, et il est en plus très rigoureux dans son travail. Et il produit des œuvres qui sont merveilleuses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Alors, bon, comme c'est un excellent pianiste, il a rencontré et il a joué avec les grands du jazz actuellement aux États-Unis, en particulier avec Big Joe Turner, Lionel Hampton, Champion Jacques Dupré. Et il a sorti une trentaine d'albums pour notre plus grand plaisir, pour les amateurs de boogie. Alors en plus, paraît-il, ça je ne savais pas, paraît-il qu'il est passionné de photographie et de vieilles locomotives à vapeur. Voilà. Bon, à part ça, bien écoutez, amis auditeurs, amis auditrices, moi je vous dis au revoir, je vous laisse savourer ce boogie du printemps, je vous dis au revoir et je vous souhaite de bonnes vacances, parce que je stoppe aujourd'hui, on va reprendre en septembre, je vous souhaite de très bonnes vacances, et également, prenez bien soin de vous, parce que le corona bidule, malheureusement, n'a peut-être pas fini de faire parler de lui. Et moi je le souhaite, mais... c'est pas évident, c'est pas encore gagné. Alors faites attention qu'on ait le plaisir de se retrouver en septembre.
Exactement.
Au revoir à mes auditeurs, au revoir à mes auditrices, au revoir Mathieu. Bonnes vacances Mathieu.
Et bonnes vacances à toi surtout Georges. Merci beaucoup pour toutes ces rubriques. Presque 70 je crois que tu as fait de mai la 11e.
Non. Aujourd'hui, oui, c'est 70 piles.
70 piles, et ben voilà, on y est. Le compte est bon.
On arrange ça à la rentrée.
Parfait. Merci encore une fois, Georges, et puis très bonnes vacances, grandement méritées.
Merci Mathieu.
À bientôt, au revoir. printemps, c'est le morceau qu'a choisi pour nous Georges Botton, l'excellent Georges Botton, dans sa rubrique Mai la 11e, et c'était un morceau de Axel Zwingenberger.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on a rendez-vous avec notre disquaire sur Calade, c'est Pitch de l'Underground Store. Chaque semaine, il nous propose un nouvel album à écouter. C'est toujours un plaisir d'écouter ses conseils musicaux. Bonjour Pitch.
Matérialiste, Mathieu, jamais, impossible. Bah écoute, moi aussi, c'est toujours un plaisir, même d'écouter ton jingle, encore une fois.
Merci.
C'est la dernière de la saison, en plus.
Et
on
a
fait quoi, 7, 8, c'est la 8e, je crois, là.
Ça doit être la 8e, ouais, effectivement, dans l'ensemble sur Calade, et toujours des petites pépites, hein. On a eu beaucoup de hip-hop, et puis de temps en temps, on est sorti un petit peu de cet
univers. De la soul, de la funk, du punk, on va en avoir encore un peu, Non, mais pas mal de trucs, ouais. Ouais, j'essaie, voilà, après, j'essaie vraiment de prendre de la nouveauté, donc soit l'année en cours, ou maximum, qu'on est en tout cas pas à plus de la moitié de l'année, l'année d'avant. Là, c'est le cas d'ailleurs, du coup, pour introduire ma sélection. Donc, j'ai choisi un disque qui est sorti en 2019. Un groupe que j'ai découvert en 2019 aussi. J'ai découvert ce groupe le 20 décembre de l'année dernière. C'était un vendredi soir, c'était au Sonic. Mes amis de la péniche du Sonic organisent des très très bons concerts et bah, j'avais un anniversaire pas loin, donc j'étais faire un coucou et donc voilà, je suis tombé sur un groupe qui terminait leur balance qui s'appelle Blind Delon. Alors un sacré blaze, un sacré jeu de mots par rapport à l'acteur.
Référence à Alain.
Leur logo, il est rigolo aussi parce que c'est genre Alain Delon et il a un espèce de post-it à la place des yeux de mémoire. Et voilà, et donc Blind Delon, un vendredi 20 décembre, ils affichaient complet avant l'ouverture des portes.
Ouais.
Donc ils sont de Toulouse. Sur scène, ils étaient 3 ou 4. C'est vraiment du ils appellent Dark Wave, électronique, synth pop, post-punk. Voilà, et depuis pas très longtemps, c'est genre 5-6 ans qu'ils font des choses, mais ils sortent des disques qui sont produits sur des labels étrangers, espagnols, hollandais. Là, j'ai vu, il y a un maxi qui vient de sortir tout récemment, le 20 mars, sous un label parisien. Voilà, et ils ont beaucoup travaillé. Donc cet album, d'ailleurs, il sort chez un album qui est franco-espagnol. Donc l'album dont on parle et dont tu vas jouer un extrait. Mais je suis juste épaté par ces groupes qui arrivent avec un univers musical... Voilà, le nom de l'album s'appelle Discipline.
Ouais.
Voilà, et c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gars studio, il y a un des deux gars, il fait du master. Donc on en parlait la dernière fois au niveau des pressages, etc., le mix, le master et tout. Mais là, c'est tellement bien fait. Pour te dire, ce CD, quand je le mets dans mon véhicule, je mets à fond le système son, ça ne sature pas. On est dans... Voilà, c'est hyper bien fait, quoi, la preuve. Tu vois, quand sur un système comme ça, c'est trop bien. On peut vraiment mettre à fond... C'est riche et les gars musicalement c'est des tueurs, on voit, tu vois, ils maîtrisent leur machine. Bon, je connais bien, j'ai vu plein d'artistes là-bas et vraiment voilà, ça m'impressionne parce que arriver être de Toulouse sur Lyon, arriver à réunir un vendredi soir une péniche complète sur un concert comme ça et personne connaît, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, moi je suis disquaire, je connaissais même pas. C'est vraiment très pointu, très qualitatif. Voilà, je conseille à tout le monde Blind Delon. C'est un bel exemple pour dire on peut être très productif, faire plein de choses. Et en fait, personne, on peut faire son bout de chemin et être reconnu dans le monde entier alors que personne ne connaît. Quoi,
la fameuse scène underground.
À fond. On est vraiment dans l'underground. On termine là, c'est la 8e. Là, franchement, je crois qu'il n'y a pas plus underground, pas plus qualitatif que Blind Delon. Voilà. Et je conseille les vinyles à fond à tout le monde. Achetez les vinyles, c'est super bien fait.
Je laisse commencer un peu leur musique pendant qu'on finit d'en parler à Blind Delon. Ils ont des morceaux assez longs et cet album, ça avait l'air vraiment d'être un album concept. Ça s'appelle Discipline et chaque titre s'appelle Rule 1, Rule 2, Rule 3. Enfin, les règles, règle numéro 1, règle numéro 2. C'est vraiment conceptuel. Ils sont dans un délire permanent, j'ai l'impression.
Mais ça t'emmène. C'est vraiment... ils font voyager. Hein. Je les ai vus en live, ils m'ont vraiment ambiancé tout de suite. Et puis les gars sont tout simples. Tu vois, ils font pas dans la dentelle. J'adore. Ah, franchement, Et puis ouais, le travail. Puis il y a un univers visuel qui est rigolo. Je parlais du de post-it sur.
Ouais, sur les.
Sur la tête des c'est, non, je pense que ça, c'est des groupes qui vont faire leur bout de chemin, qui vont être reconnus en dehors de France, qui vont pas mal bouger quoi. La preuve déjà par la cote de leur vinyle.
Ouais.
Leurs disques sont très très chers. Le premier album, il est sorti il y a 4 ou 5 ans. C'est un truc qui se vend à presque 100 euros.
C'est des pépites. Peach, merci beaucoup pour ce conseil musical. Là, on va bientôt.
Je vais écouter Blind Delon. Je vais me caler sur Radio Calade, tu vois.
On te retrouve tout l'été à l'Underground Store. Et puis on te retrouvera en septembre dans notre émission, dans Ensemble sur Calade.
Ah, ok, bel été à tout le monde et surtout à toi Mathieu, merci beaucoup.
Merci beaucoup, très bel été Peach. On écoute donc Blind Delon avec la règle numéro 3, Rule Free sur Calade.
She
Delon et on vient d'écouter la règle numéro 3, Rule Free sur Calade. C'était le choix musical de notre disquaire Pitch.
Ensemble sur Calade, c'est évidemment sur Calade.
Allez, voilà, c'est la fin de cette émission et c'est aussi la fin de la saison pour Ensemble sur Calade. Cet été, on vous proposera de réécouter les meilleurs moments et puis on reviendra bien en septembre. Donc pour terminer cette émission, qui se veut avant tout joyeuse et divertissante, un peu de groove, un peu de funk à l'ancienne avec Zap More Bounce to the Hounds. Avant de vous dire au revoir, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à cette émission, les invités bien sûr, mais merci avant tout aux chroniqueurs réguliers Eddy Bernard, Bertrand Lamure, Sylvie Calais, le coach Léonard Michalon, le prof Patrick, Vincent Pourageau, Nadjet Guidoum, André Dutronc, Charline Simian, Pif Paf, Queenie, Peach et bien sûr le très fidèle Georges Botton. Merci à ceux aussi qui m'ont aidé dans l'ombre, Sylvie Rosier, Smaïn Yayaoui et Valérie Blé. J'espère que j'oublie personne. Et pour terminer, merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'animer ce rendez-vous chaque jour et de rencontrer toutes sortes d'invités passionnants du Beaujolais. Très bel été à vous, prenez soin de vous et des autres. À très bientôt, ciao ciao.
Ensemble sur Calade.
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 Ensemble sur Calade, c'est en direct du lundi au vendredi de 12h à 14h, évidemment sur Calade.
Calade.